Marine Le Pen sera du rythme bleu ce matin. Elle a annoncé qu'elle allait écrire au président de la République. Elle veut participer personnellement à la réunion que le chef de l'État veut organiser à Paris avec les parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est française de manière définitive après les trois référendums. Il faut organiser dès maintenant le dégel du corps électoral. Le vice-président des LR, François-Xavier Bellamy, a tenu une réunion publique au discours offensif hier. La mise en place dans quelques semaines d'un comité de pilotage sur le déménagement d'Ercal à Tontouta. Le sujet a été évoqué lors d'une commission plénière au Congrès hier. En métropole, 20 ans de prison contre Joël Lescouarnec, accusé de près de 300 viols et agressions sexuelles, la plupart sur des mineurs. Il échappe à la peine de sûreté. Et puis dans la page sport, le point sur le deuxième tour de Roland-Garros en tennis et le titre en football pour Chelsea en Ligue Europa Conférence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Pour Marine Le Pen, il faut sortir de la cage de la réforme institutionnelle dans laquelle est enfermée la Nouvelle-Calédonie. La chef de file des députés RN était ce matin dans les studios de Radio Rythme Bleu au deuxième jour de sa visite sur le territoire et elle a détaillé le projet de son parti. Elle a aussi annoncé qu'elle souhaitait participer personnellement aux discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Noir.
C'est une information que Marine Le Pen a annoncée sur RRB au lendemain du communiqué de l'Élysée, qui précise que le président de la République invitera les parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie à venir travailler à Paris à partir de la mi-juin. Marine Le Pen nous a annoncé qu'elle allait écrire à Emmanuel Macron.
J'ai vu qu'il reprend la main, il retire donc le dossier à M. Valls, il reprend la main, moi je vais lui écrire dès mon retour à Paris pour lui demander de participer autour de table sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Parce que je considère que le Rassemblement National est d'abord le premier parti de l'Assemblée nationale, deuxièmement il bénéficie d'un capital de confiance, je rappelle que j'ai fait 40% aux élections présidentielles en Nouvelle-Calédonie, que je crois que nous avons une vision, nous avons travaillé, nous avons un projet, nous avons en même temps travaillé sur l'aspect institutionnel et travailler sur le développement économique et nous avons très certainement des choses à apporter dans ce débat qui est essentiel pour l'avenir de la Calédonie dans la France.
C'est vous-même qui voudriez participer à cette discussion sur l'avenir ou...
Oui, j'irai personnellement, comme j'ai été personnellement d'ailleurs la seule présidente de groupe à être présente à l'ensemble des réunions organisées autour de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.
Marine Le Pen veut participer à ces discussions organisées par le président de la République sur les sujets économiques, politiques et institutionnels, mais elle se dit particulièrement préoccupée, on le sait, par la situation économique et budgétaire de la Nouvelle-Calédonie. La priorité pour elle, c'est de réfléchir aux moyens de redresser l'économie et pour cela, elle propose un moratoire parce que, dit-elle, il n'y aura pas d'investissement s'il n'y a pas de stabilité.
Il n'y aura pas d'investisseurs privés. Et j'ai même envie de vous dire, il n'y aura pas d'investisseurs d'État. C'est-à-dire que l'État n'investira pas s'il a le sentiment que les investissements importants qu'il y a à faire en Nouvelle-Calédonie peuvent demain être abandonnés au bénéfice d'une émeute ou plus grave que cela. Donc les deux doivent se mener ensemble. Mais là, j'ai presque envie de dire, il faudrait presque un moratoire dans le conflit qui existe pour s'attacher vraiment à résoudre la crise économique et budgétaire. Parce que la Nouvelle-Calédonie est au bord du gouffre sur le plan budgétaire. Et les entreprises aujourd'hui, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, elles ont évidemment besoin d'avoir cette visibilité. Et quand tout le monde se sera mis à travailler ensemble pour quelque chose de positif, eh bien peut-être arrivera-t-on à trouver le chemin institutionnel que tout le monde cherche.
Très critique sur ce qui a été fait ces dernières années, Marine Le Pen affirme que le rééquilibrage a été un échec et elle en fait porter la responsabilité à l'État et aux partis politiques calédoniens. La chef de file des députés Rassemblement National réclame donc une pause institutionnelle, ce qui induit un prolongement de l'accord de Nouméa tout en étant souple. Mais pour elle, il faut faire le bilan des différentes compétences.
Moi, je crois qu'il faut faire un bilan. Est-ce que l'ensemble des compétences qui ont été transmises sont véritablement utilisées comme elles le devraient? Est-ce qu'il n'y a pas des manques, des carences peut-être quelque part? Est-ce qu'on ne doit pas accélérer certaines, peut-être ralentir certaines, réfléchir à nouveau sur quelles compétences pour quelle collectivité, quitte d'ailleurs peut-être à en restituer une ou deux à l'État quand on voit qu'on n'est pas encore en capacité de les utiliser à plein régime. On peut réfléchir à beaucoup de choses, beaucoup de souplesse dans la mise en œuvre, pour peu que tout le monde soit d'accord. Et puis, parce que c'est inscrit dans la Constitution, le droit à l'autodétermination, qui peut d'ailleurs prendre des formes qui sont très différentes, pourrait être envisagé, j'ai suggéré moi, 40 ans.
Un référendum d'autodétermination dans 40 ans, parce que la Nouvelle-Calédonie a besoin de stabilité, notamment pour les investisseurs. Marine Le Pen estime qu'il fallait être naïf pour croire que les trois référendums allaient régler la situation. Elle souligne qu'il y a deux peurs existentielles qui s'affrontent, celle des Kanaks et celle des Européens, et dans ce contexte, elle estime que des erreurs majeures ont été commises, notamment avec la tentative de modification du corps électoral.
Le dégel du corps électoral aurait dû faire partie d'un accord global. Et en le faisant voter, on se privait en réalité de pouvoir l'intégrer comme un des leviers d'un accord global. C'était une énorme maladresse. C'est, je crois, la conséquence de la méconnaissance par un gouvernement qui a peut-être été poussé par certains aussi, hein, à ce que je considère être une faute. Mais quand on connaît l'idéal que représente pour les indépendantistes l'indépendance. C'est comme ça, c'est un fait. Moi, je juge pas, je dis pas c'est bien, c'est pas bien. C'est comme ça. Et c'est comme ça depuis longtemps entre nous. Bon, si quelqu'un a pensé qu'au bout de 3 référendums, ça réglerait le problème, eh bien, c'est, je pense, une absence de lucidité.
Et maintenant, pour Marine Le Pen, il faut que les élections provinciales aient lieu et qu'elles se déroulent vite. Elle estime raisonnable un corps électoral glissant de 10 ans et elle souhaite une issue à l'impasse dans laquelle se trouve la Calédonie.
Il faut quand même trouver ce chemin. Parce que moi, j'espère être présidente de la République. La Nouvelle-Calédonie, je la veux dans la France. Ça veut dire que les Calédoniens sont tous français à mes yeux. Et que donc je m'attache à ce que la paix et l'unité reviennent en Nouvelle-Calédonie. Et l'avenir de l'ensemble des Calédoniens m'importe. C'est ça la position qui est la mienne. Alors c'est sûr, on peut toujours être extrêmement dur dans les postures, mais regardez ce que ça donne d'être dur dans les postures. On se retrouve avec une tension extrêmement forte et en réalité un chemin vraiment très étroit pour réussir à trouver les moyens de réfléchir à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie.
Le chef de file des députés Rassemblement National qui doit rencontrer cet après-midi le bureau politique du FLNKS, elle affirme qu'elle va lui tenir le même langage en appelant à un moratoire sur les conflits politiques ancestraux.
Et après ce passage dans nos studios ce matin, Marine Le Pen s'est rendue à Doniambo, à l'usine de la société Le Nickel. La présidente du Rassemblement National, à l'Assemblée nationale, pardon, a parlé d'avenir de la filière nickel, Léo Fichou.
La visite a débuté par un temps d'échange avec la direction et le personnel de la SLN. Puis Marine Le Pen et toute sa délégation ont pu faire le tour de l'usine pendant plus d'une heure. Marine Le Pen martèle depuis ce matin qu'elle croit beaucoup en l'avenir de la filière nickel. L'avenir qui pourrait passer par la construction d'une mini centrale nucléaire, selon la présidente du Rassemblement national à l'Assemblée nationale.
Le tout, c'est qu'il faut que l'État ait une vision en fait, industrielle. Et la vision industrielle que doit porter l'État, au-delà du fait que c'est privé, ce n'est pas le sujet, c'est l'énergie. C'est-à-dire c'est l'apport d'une énergie qui soit en même temps décarbonée, mais surtout à très bas coût. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence avec l'Indonésie est intenable avec le prix de l'énergie actuelle, qui nécessite évidemment des subventions massives. Les subventions, elles sortent de vos poches, de ma poche, et tout ça, c'est pas très performant. Quoi. Voilà. Donc, il y a une vraie réflexion à mener. Le plus cohérent, ce serait un SMR, les mini-centrales nucléaires, les SMR. Ce sont des coûts, je vais pas dire que c'est raisonnable, c'est 1 milliard, mais en réalité, quand on sait ce que ça peut apporter, que ça couvre les besoins des 3 usines, plus éventuellement que ça laisse de la marge pour le reste de la Nouvelle-Calédonie, en termes d'investissement d'avenir, ça reste quelque chose de raisonnable.
Charles Dubois, directeur général par intérim de la SLN, confirme les propos de Marine Le Pen. L'ensemble de la profession travaille main dans la main pour trouver des solutions pérennes. Très honoré de cette visite, il a pu montrer à la présidente du RN à l'Assemblée nationale et à sa délégation le travail et le savoir-faire local.
Aujourd'hui, ça s'est très bien passé, effectivement. On a pu faire le tour de l'usine, montrer notre process, montrer aussi la compétence de notre personnel. C'est quelque chose, on est très fiers de présenter le savoir-faire et la compétence multigénérationnelle de tous nos salariés qui œuvrent pour produire un nickel de qualité. On a pu parler de nos enjeux, des solutions aussi qui existent pour la filière nickel, en particulier la SLN. Donc les enjeux et les solutions, elles sont documentées. C'est avant tout un accès à l'énergie compétitive en commençant par une centrale. C'est vraiment un besoin que l'ensemble de la filière nickel, la Nouvelle-Calédonie, a besoin. Construire une centrale, c'est vraiment le premier point qui est nécessaire pour avoir une électricité compétitive et pouvoir continuer à laisser les mineurs travailler, accéder à leur gisement pour avoir un minerai de qualité pour nos fours.
Mais avant ça, la SLN cherche une solution à court terme de production électrique, l'obtention d'une nouvelle autorisation pour l'année à venir de la centrale sur barge.
Après cette visite de la SLN, Marine Le Pen s'est rendue au Sénat coutumier. Elle doit ensuite faire un déplacement sur le terrain à Ducos pour constater les dégâts causés par les violences insurrectionnelles et doit notamment rencontrer dans l'après-midi le bureau politique du FLNKS. Je vous rappelle que Marine Le Pen tiendra une réunion publique demain soir à 18h au Château Royal. Autre visite, celle de François-Xavier Bellamy. Il tenait une réunion publique hier soir à l'hippodrome de Nouméa et le député européen a tenu un discours très offensif en appelant notamment Elisabeth au respect de la démocratie et au dégel du corps électoral.
Une réunion publique organisée à l'invitation du Rassemblement et des Loyalistes, ce qui a fait dire à François-Xavier Bellamy qu'il s'agissait d'une grande réunion de famille. Il a évoqué le 13 mai, bien sûr, et la peur qu'il ressentait chez les Calédoniens, en affirmant qu'il ne faut jamais donner raison à la violence et en rendant un hommage appuyé aux forces de l'ordre. Le député européen, qui est aussi le numéro 2 des Républicains, a évoqué l'avenir institutionnel en fixant un cadre et des lignes rouges. Un discours sans concession qui appelle d'abord au respect de la démocratie et du résultat des 3 référendums.
Ce processus de décolonisation a pris fin. Il s'est terminé. Avec les 3 référendums, les Calédoniens se sont exprimés. Ils ont décidé de leur avenir. Décolonisation ne veut pas dire indépendance, quoi qu'en pensent quelques belles âmes de gauche ou d'extrême gauche qui voudraient que ce soit l'inéluctable réponse qu'il fallait apporter à la question qu'on posait. Bien sûr que non. La réponse à cette question dépendait de votre liberté, dépendait de la liberté de tous les Calédoniens. Et ils ont dit à 3 reprises qu'ils refusaient l'indépendance. La décolonisation est terminée. Les Calédoniens ont décidé qu'ils appartenaient à la France.
Dans cette intervention souvent interrompue par les applaudissements, François-Xavier Bellamy a aussi affirmé que le respect de la démocratie serait le premier et le dernier mot de toute négociation possible. Et dans le même esprit, il a déclaré qu'il faut organiser dès maintenant le dégel du corps électoral.
Sinon, à quoi est-ce que je ressemble, moi? Essayez de penser à moi un peu. Je suis député européen. Je vais revenir demain au Parlement européen et expliquer à mes collègues qu'il y a en France un territoire français sur lequel, hors de tout vrai cadre légal, puisque l'accord de Nouméa s'est terminé avec le 3e référendum, un territoire français sur lequel, hors de tout cadre légal, il y a des citoyens français qui ne peuvent pas voter aux élections. Et on appellerait ça une démocratie? Et on appellerait ça un état de droit? Au Parlement européen, personne ne nous prendra au sérieux. Ni la Cour européenne des droits de l'homme, ni la Cour de justice de l'Union européenne ne pourront accepter un seul instant de plus que des élections aient lieu dans lequel des citoyens qui vivent, travaillent, payent leurs impôts, sont régulièrement inscrits, ne puissent pourtant pas voter sur ce qui détermine l'avenir du territoire où ils vivent.
Il faut aussi organiser les provinciales, affirme le député européen LR, et il faut réfléchir à l'organisation de l'action publique dans une Nouvelle-Calédonie qui, dit-il, est française de manière définitive. Pour François-Xavier Bellamy, il n'y a pas à inventer un droit perpétuel à l'autodétermination qui bloquerait tout. Le numéro 2 des Républicains qui avait aussi un message aux Calédoniens de la part de son président Bruno Retailleau, qui est également, vous le savez, ministre de l'Intérieur.
Tu leur diras que si on me demandait demain de souscrire à un accord qui fragiliserait la Nouvelle-Calédonie française, nous quitterions immédiatement le gouvernement de la France. Et tu leur diras que si on me demandait de fragiliser l'engagement des forces de l'ordre qui aujourd'hui garantissent le maintien de la sécurité en Nouvelle-Calédonie, nous appliquerions exactement la même réponse. Notre ministre de l'Intérieur, et je voulais partager ce message avec vous pour vous dire que notre ministre de l'Intérieur est aujourd'hui engagé tous les jours pour garantir la sécurité en Nouvelle-Calédonie grâce aux policiers et aux gendarmes qui sont déployés ici. Et nous continuerons à soutenir cet engagement parce que la Nouvelle-Calédonie en a besoin dans la durée. C'est une nécessité absolue.
François-Xavier Bellamy a enfin évoqué les ingérences extérieures de l'Azerbaïdjan qu'il dit avoir combattu pied à pied et jour après jour au Parlement européen. Un pays qui, notamment, refuse à l'Arménie son droit à l'autodétermination.
Et c'est ce même pays, l'Azerbaïdjan, qui viendrait nous faire croire qu'il défend le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ici. Ne le laissons jamais croire. Ne le laissons jamais dire. Et moi, je dis très simplement que quels que soient nos regards sur la situation politique, quelles que soient nos convictions dans les débats parfois difficiles qui ont pu exister en Nouvelle-Calédonie, je dis très simplement que des élus qui acceptent d'être soutenus par l'une des pires dictatures au monde ne peuvent pas prétendre ensuite qu'ils défendent la liberté.
Une réunion publique à laquelle participaient un millier de personnes et qui a débuté par les interventions des élus et des dirigeants du Rassemblement et des loyalistes qui ont participé aux discussions sur l'avenir institutionnel.
Et aujourd'hui, François-Xavier Bellamy poursuit ses entretiens. Il déjeune avec l'Association française des maires et doit aussi rencontrer le haut-commissaire Jacques Billan. Il est 12h14, c'est la première pause de ce journal avant de voir dans un instant le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB. Vous avez le style ? Elle aussi. La nouvelle Peugeot 208 Style, c'est un look affûté, des technologies de dernier cri et surtout un plaisir de conduire qui fait la différence. Et devinez quoi ? Elle est à vous pour 36 500 francs par mois, connectée, stylée. La Peugeot 208 Style coche toutes les cases et elle vous attend. Venez la découvrir au village automobile PK4 Nouméa ou chez NC Motors Koné. Offre valable jusqu'au 31 mai 2025 en LLD 60 mois sous conditions et dans la limite des stocks disponibles. Détails chez votre concessionnaire Peugeot. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Découvrez le groupement d'employeurs VKPP et GE2B, un des meilleurs outils associatifs économico-sociaux reconnus en Nouvelle-Calédonie depuis 2017. Nous avons eu l'honneur d'accompagner plus de 1500 demandeurs d'emploi locaux dans leur parcours vers l'obtention d'un contrat de travail grâce à notre système GE. De plus, 150 entreprises locales ont fait le choix d'utiliser cet outil innovant pour dynamiser leur activité. Si vous êtes gérant d'entreprise et souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au 746 726. Pour les demandeurs d'emploi, nous vous invitons à composer le 30 77 27. Nous serons ravis de vous accueillir dans notre bureau situé à Koné.
RRB 11h 13h Infomag Jean-François Bodin.
À la suite de l'actualité en Calédonie, les loyalistes ont dressé hier soir le bilan du séminaire régional du C24, le comité spécial de la décolonisation, qui était réuni du 21 au 23 mai au Timor oriental, Nicolas Legrand.
Oui, l'occasion pour chacun, à la fois les partisans de la Nouvelle-Calédonie dans la France et les indépendantistes, de défendre sa vision de la Nouvelle-Calédonie et de son avenir. Pour Naya Wateu, représentante du parti loyaliste, il était essentiel de prendre la parole devant le comité pour établir un équilibre face à la version portée par les indépendantistes qu'elle juge éloignée de la réalité.
Depuis qu'on y va et depuis qu'on tient un discours qui est différent et qu'on vient, parce qu'on vient pas juste avec notre discours, on vient avec de la documentation, on vient avec des notes, on vient avec une revue de presse, on vient montrer ce qui se passe réellement sur le terrain, effectivement, l'appréciation des pays membres commence à changer. La réalité, c'est qu'on prend aussi la parole et qu'aujourd'hui, on est en capacité de pouvoir répondre lorsqu'on a des discours qui sont complètement dissonants avec ce qui se passe. Donc effectivement, la Nouvelle-Calédonie, qui avant était au troisième point de l'ordre du jour du deuxième point, est aujourd'hui le premier dossier qui est examiné parce qu'ils savent qu'à un moment donné, il y aura débat. Ça, c'est aussi ce message qu'on tient à faire passer, et encore plus maintenant avec la situation dans laquelle se trouve la Nouvelle-Calédonie, et tout simplement de parler de la réalité des Calédoniens aujourd'hui.
Et pour la première fois, le Tapura, parti de la Polynésie française, était présent lors d'un séminaire du C24. Une participation inédite qui, selon Marie-Laure Ukewe, militante loyaliste, permet de rappeler que tous les territoires faisant partie du processus de décolonisation ne souhaitent pas devenir indépendants.
On a expliqué chacun qu'on recevait de l'aide de la France à travers des contrats de développement, à travers des financements. Et c'est ce qui permet à nos territoires d'être développés, d'avoir une certaine qualité de santé, une qualité d'éducation. Et c'est aussi le choix qu'ont fait aussi bien les Polynésiens que les Calédoniens. Et c'est vraiment martelé pour dire que ces choix-là, on ne les fait pas par... comme le disait une collègue du parti indépendantiste haïtien, ce n'est pas un syndrome de Stockholm. C'est vraiment de manière pragmatique comment rendre service à notre population et faire qu'elle se sente bien chez elle.
Et le prochain rendez-vous du C24 aura lieu en novembre à New York.
La question du déménagement des activités d'Aircal de Magenta vers Tontouta a été au centre d'une réunion de la commission plénière du Congrès hier. Les élus ont pris connaissance de la situation d'Aircal, notamment de sa situation budgétaire, car elle impose de réfléchir à son déménagement vers Tontouta, a rappelé le président du gouvernement Alcide Ponga.
On va s'organiser pour faire à ce que les choses se fassent de façon très, très, très pédagogique et surtout de répondre aux questions qui sont posées par les usagers. Comment est-ce que je suis transporté de Tontouta à Nouméa? Comment est-ce que je fais ci? Comment est-ce que je fais ça? Le coût du billet, si ça augmente, comment est-ce que c'est pris en charge, c'est aidé, etc., etc. Donc tout cela, ce sont des questions qui provoquent une certaine tension chez les usagers des îles et je le comprends parfaitement. Mais il va falloir qu'on le fasse parce que dans le plan de sauvetage du Aircal, ce déménagement en fait partie. Si on ne le fait pas, je ne sais pas comment est-ce qu'on continue derrière cette activité parce que la Calédonie devra chaque année mettre entre 1 milliard et 1 milliard 5 sur la table pour sauver Aircal. Et ça, sincèrement, on ne pourra pas le faire.
Et pour avancer sur ce projet de déménagement, un groupe de pilotage va être mis en place avec toutes les parties prenantes car il reste de nombreuses questions et il y aura des choix à faire.
Il y a deux schémas. Est-ce qu'on passe par un modèle transitoire qui nous ferait démarrer les choses en 2025 ou est-ce qu'on attend le modèle définitif qui nous ferait démarrer plutôt en 2026? Donc tout ça, ce sont des questions auxquelles j'ai pas encore la réponse là-dessus. Je préfère que le
groupe de pilotage de projet soit mis en place, qu'on puisse mettre tout ça sur la table, poser les questions qu'il faut, y répondre. Un groupe de travail qui intègre l'ensemble des parties prenantes au sujet de déménagement, parce que c'est pas que Aircal, c'est le gouvernement, c'est les pompiers, c'est la direction de l'aviation civile, c'est la DANC, c'est Aircalin, c'est la CCI, etc. etc.
Alcide Ponga, le président du gouvernement, des propos recueillis par Kelinda Boicou. Le groupe de pilotage doit être mis en place dans les prochaines semaines. À propos d'actualité aérienne, le vol Aircalin A330 entre Tontouta et Sydney, prévu au décollage ce matin à 8h35, a été retardé en raison d'un aléa technique, précise la compagnie. 300 personnes étaient concernées. L'avion a finalement pu décoller aux alentours de 11h30. Et puis au chapitre des faits divers, un appartement en feu à Nouville. Les pompiers sont intervenus ce matin vers 4h50. Il s'agit d'un feu accidentel qui a démarré dans la cuisine. Les voisins ont tenté d'intervenir pour réveiller l'habitant de cet appartement en proie aux flammes. L'un d'eux a été incommodé par les fumées. Il a été transporté au Medipôle. Quant à l'occupant des lieux, il n'a pas été vu par le médecin du SMUR avant son transfert à l'hôpital. Le feu ne s'est pas propagé aux autres appartements et les habitants de la résidence ont été confinés chez eux le temps de l'intervention.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à notre question d'hier. Alors que le 31 mai sera la journée sans tabac, 50% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment que le plus incitatif pour arrêter de fumer, ce sont les risques pour la santé. 50% estiment que ce sont les raisons économiques qui sont les plus incitatives. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour une nouvelle question du jour. L'actualité dans la région. Depuis le déploiement du programme Volbakia en Calédonie dans le Grand Nouméa, il n'y a plus d'épidémie de dengue, ce qui n'est pas le cas dans la région où les cas explosent. Les autorités sanitaires de plusieurs pays ont lancé un appel à la vigilance. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Des cas de dengue ont été signalés récemment au Tonga et au Samoa, où plusieurs personnes lui ont succombé. Le stade épidémique a même été atteint aux îles Cook, où des opérations de lutte contre le moustique vecteur de la maladie ont été lancées. C'est toutefois aux îles Fidji que la situation est la plus inquiétante. Près de 9000 cas de dengue y étaient enregistrés début mai, contre 5200 un mois plus tôt. 4 morts sont également à déplorer. Le ministère de la Santé a donc accru ses campagnes de pulvérisation anti-moustiques. Il a également confirmé que 4 cas de méningococcie ont été signalés à travers l'archipel ces 3 dernières semaines. 2 enfants figureraient parmi ceux qui ont contracté la maladie et un 3e enfant lui aurait succombé. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est midi 23, une nouvelle pause et dans un instant, nous défilons l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Ici, on commence vraiment à sentir la fraîcheur du matin et du soir, pas vous? Alors si, comme ma famille, vous avez besoin de vêtements chauds à petit prix, Gémeaux propose jusqu'au 22 juin la suite de sa collection hiver avec encore plus de nouveautés, sans oublier les idées cadeaux pour la fête des pères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Professionnels du droit, managers, acteurs du secteur médical, social ou représentants d'organisations patronales et salariales, devenez experts en médiation civile, commerciale et du travail avec la formation proposée par l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Apprenez à maîtriser les outils de négociation et de médiation adaptés au contexte multiculturel et au cadre juridique spécifique du territoire calédonien. Infos et inscriptions sur le site unc.nc ou au 290-490.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
La fin du procès de Joël Le Squarnec, considéré comme l'un des plus grands pédocriminels. L'ancien chirurgien a été condamné à 20 ans de prison au terme de 3 mois de procès devant la cour criminelle du Morbihan. Il était accusé de près de 300 viols et agressions sexuelles, la plupart sur des mineurs. 20 ans de prison donc, mais il échappe à la rétention de sûreté, ce qui laisse un goût amer aux victimes et à leurs familles. Sandrine Prioul pour Europe 1.
Gorge nouée, emprise d'émotion à la hauteur de la gravité du moment, attendu par près de 300 victimes, la présidente a prononcé la condamnation de Joël Le Squarnec à 20 ans de réclusion criminelle. La peine maximale assortie de mesures de sûreté, notamment les soins, mais pas la rétention de sûreté. Peine rarissime qui aurait évité à l'accusé d'être libérable d'ici 6-7 ans, car il purge déjà une peine de 15 ans. goût amer, vous le disiez, pour ses victimes à la sortie.
S'il avait eu la sûreté, avec obligation de soins, je l'aurais accepté. Mais là, non. Non, non.
C'est aberrant. Nous, on porte ce fardeau depuis plus de 30 ans, et puis lui, il n'aura fait que 20 ans. Bah, c'est la rétention de sûreté. Elle n'est pas revenue sur l'interdiction de résider sur des départements où résidaient justement les victimes, la région Bretagne et tout ça. J'ai une déception.
Une justice qui se veut réparative et un accusé qui veut réparer. Voilà les raisons pour lesquelles le Squarneck écope de la peine la plus lourde, mais pas de mesures exceptionnelles, estime son avocat Maxime Tessier.
La Cour criminelle a noté dans sa décision l'extrême importance de la reconnaissance de Joël Le Squarneck. Monsieur Le Squarneck a exprimé une volonté de réparer. Ça a été un des arguments très forts retenus par la Cour.
Devant le tribunal, les familles réunies en collectif affirment qu'elles continueront de se battre pour que la société protège mieux les enfants.
Un nouveau règlement de compte sur fond de trafic de drogue à Marseille. Un adolescent de 17 ans a été tué en pleine rue dans le quartier des Rosiers, théâtre d'un important trafic de drogue. Trois autres personnes ont été blessées. Et c'est dans ce contexte récurrent qu'a eu lieu dans les Bouches-du-Rhône une vaste opération de lutte contre la délinquance. Cette opération, baptisée Jumbo, s'est effectuée sur la voie publique, les commerces, les transports en commun. Elle a mobilisé 700 agents et avait pour but de sanctionner les infractions, les incivilités, mais aussi de repérer les commerces suspectés de blanchiment d'argent. Le reportage de Stéphane Burgat.
C'est le point noir qui préoccupe magistrats et forces de l'ordre ici, le point de deal situé à l'angle de la faculté Colbert qui subsiste malgré les nombreuses patrouilles de police.
Alors ce matin, on en a attrapé un justement à cet angle-ci, qui était en situation irrégulière et qui avait du produit stupéfiant sur lui. Et là, on nous sommes en contrôle un peu plus.
Et les enquêteurs qui ne peuvent pas toujours compter sur les caméras de vidéosurveillance, nous expliquent les habitants.
Ouais, il reste encore quand même du boulot. Il faudrait des caméras, parce que la plupart des caméras sont dégradées, donc on ne peut pas les capter.
Comme vous le voyez, ils ont cassé des caméras. Même il y a 3 ou 4 caméras ici dans le quartier. Ils l'ont cassé, ça fait un moment.
Résultat, les dealers reviennent inlassablement. Ici, comme le constatent les nombreux commerçants tout autour.
C'est chat et la souris, quoi.
C'est à la police de faire ce qu'ils peuvent faire. Quand ils sont là, oui, ça se passe bien. Mais quand ils partent, ça revient à la normale.
Ça revient de suite. C'est très 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 difficile. C'est même limite impossible à travailler. Vu ce qu'ils vendent et ce qu'ils proposent dans la rue, et puis nous on travaille sur une clientèle beaucoup féminine, les gens ils évitent de passer, ils ont peur.
Habitants et commerçants qui plaident pour une présence continue des forces de l'ordre plutôt que pour des opérations ponctuelles comme celles menées aujourd'hui. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Il est midi 27, on se retrouve dans un petit instant pour évoquer toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Besoin de couleurs? Bienvenue chez MBO Colors. Pour une couleur qui vous apaise, vous donne du peps, vous réconforte ou bien vous interpelle, chez MBO Colors, vous pouvez imaginer et créer les couleurs tendances qui vous ressemblent. MBO Colors, c'est un choix illimité de teintes dans un magasin de 500 mètres carrés dédié à la peinture et à la couleur. Alors à bientôt chez MBO Colors. L'univers de la peinture pour professionnels et particuliers. 4 rue Fulton à Ducos, 43 43 00.
Artisan, produit BTP, patenté, votre outil de travail mérite l'excellence. Jusqu'au 30 juin 2025 chez Mercedes-Benz, profitez d'une offre exceptionnelle et bénéficiez de 37% en défiscalisation sur nos véhicules utilitaires. Votre Mercedes Vito, 6 mètres cubes, BVA, 190 chevaux, à 3 390 000 francs. Et votre Mercedes Sprinter, 11 mètres cubes ou 14 mètres cubes, BVA, 170 chevaux, à partir de 3 690 000 francs. Rendez-vous chez Mercedes-Benz au village automobile PK4 à Nouméa. Offre réservée aux professionnels éligibles au dispositif Odeum, sous réserve d'acceptation du dossier par le cabinet de défiscalisation Interinvest. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par le tennis avec le deuxième tour de Roland-Garros. Et la nuit dernière a été difficile pour les Français porte d'Auteuil, Nicolas.
Oui, touché aux abdominaux, Hugo Gaston a déclaré forfait avant même de jouer contre Ben Shelton. De son côté, Giovanni Empeci-Pericard s'est incliné malheureusement en 4-7 face au Bosnien. Damir Dumur, c'est vraiment la désillusion pour Giovanni Empeci-Pericard. En revanche, ça passe pour Quentin Alice qui a battu le Serbe Miomir Kecmanovic. Après avoir concédé le premier set, le Français a su se redresser pour s'imposer 3-7 à 1. Et puis côté tête de série, on retiendra que Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas tombent déjà. Chez les femmes, aucune Française n'était engagée sur les courts. Les prétendantes ont tenu leur rang la nuit dernière. Ça passe sans encombre pour Arina Sabalenka et Gaziantep.
Le football et Chelsea remportent la Ligue Europa Conférence. Les Anglais ont soulevé la coupe après avoir battu en finale le Betis Séville 4-1.
Oui, et ce sont pourtant les Espagnols qui avaient ouvert le score dès la 9e minute de jeu et qui ont mené une grande partie de la rencontre au tableau d'affichage. Chelsea a égalisé à la 65e minute avant avant d'enfoncer le clou 6 minutes plus tard. Les deux derniers buts des Blues ont été inscrits dans les 10 dernières minutes de jeu.
Et puis on termine avec le cyclisme. Le maillot rose s'est imposé à Bormio. Isaac Del Toro a remporté la 17e étape du Giro.
Oui, le Mexicain qui réagit en champion et remet les pendules à l'heure. Il s'offre sa première victoire sur le Giro, ce qui lui permet de reprendre confiance après sa difficile journée de la veille. Le Mexicain devance de 4 secondes le Français Romain Bardet et Richard Carapaz. Deuxième du classement général, une victoire acquise dans la dernière descente avec vraiment un travail très technique d'Isaac Del Toro qui conforte donc un peu plus sa place de leader sur ce Tour d'Italie alors qu'il ne reste que 4 étapes à parcourir.
Il est 12h30, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous d'info, ce sera 13h pour la fin d'Infomag avec le rappel des principaux titres de l'actualité. Cet après-midi, la nouvelle session d'info débute à partir de 17h.